À chacun pour ce merveilleux dimanche de Pâques. Mes amis, mon cœur déborde. Et il faudra vraiment que je m'applique à mes notes si je ne veux pas dépasser trop le temps. Parce que Christ, notre Sauveur, est ressuscité aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Les fils des hommes et les anges se réjouissent et disent alléluia, alléluia. Notre glorieux roi vit à nouveau. Mes amis, il vit à nouveau. Il était mort, mais il vit maintenant. Et maintenant, le challenge qu'il offre au diable et à la mort. Mort, où est ton aiguillon? Une fois qu'il est mort pour sauver nos âmes, non, une fois il est mort pour sauver nos âmes, où est ta victoire, ô tombeau? L'amour rachète tout. Il a combattu le combat. La bataille est vaincue. En vain, la mort lui a commandé de rester dans la tombe, de rester mort. Christ a ouvert le paradis. Mon cœur est plein aujourd'hui parce que aussi j'ai le privilège de vous faire transmettre ce message de la part de Oncle Erlo. C'était tellement mon désir qu'il puisse au moins nous envoyer un message. Voilà le message de notre Père spirituel. Donc il est en Zoulou. Il se rappelle de nous et il nous languit beaucoup dans ces moments. Que le message de Pâques soit dans chacune de notre vie pour ce dimanche de Pâques. Et là où il est, il prie. Que le Seigneur garde et bénisse chacun. Nous voulons prier ensemble. Seigneur, nous nous inclinons devant toi ce matin. Nous te remercions de pouvoir célébrer cette réalité. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Pour chaque croyant, c'est une réalité de la même façon que le sol sur lequel nous marchons est réel. Et nous te remercions de pouvoir célébrer cette réalité. que tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le diable. Tu as ouvert les portes, tu as ouvert les portes du ciel. Qui que ce soit qui veulent rentrer, peut y rentrer. Que nous puissions, pendant ce culte, expérimenter ton appel et ta présence tout à nouveau. Nous te remercions, Père Céleste, d'avoir envoyé ton Fils. Ô Dieu, Saint-Esprit, nous te remercions. Et tout cela, nous te demandons et en louant le nom de notre intercesseur, notre cher Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes amis, je voudrais parler ce matin pas pour savoir si vous avez réfléchi, pris du temps à la réflexion, pensé à Pâques ce week-end, mais est-ce que vous avez une visite particulière de la part de Dieu? Et je voudrais lire par rapport à deux hommes. Après que cette grande bataille accomplie, après tout ce qui a été accompli dans les cieux, que la bataille a été vaincue, gagnée, après que Christ soit descendu dans les profondeurs de l'enfer pour nous sauver. Ils étaient confus. Ils avaient mal dans leurs âmes. Et pourtant, il y avait la graine de la foi dans leur cœur. Ils avaient quelque chose en eux. Qui a fait que le Seigneur Jésus, le Seigneur ressuscité, soit venu les visiter. Luc 24, verset 13. C'est un texte assez long. Luc 24, verset 13. Je vais le lire à plusieurs portions en même temps. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Verset 16. Mais leurs yeux était empêché de le reconnaître. Verset 17, il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, verset 19, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant le peuple. Verset 20, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnées, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Verset 24. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Verset 25. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Verset 30. Pendant qu'il était, on a sauté jusqu'au verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Verset 33. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Verset 35. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. va s'arrêter là pour l'instant. Je lirai un autre passage un peu plus tard. Il y a un grand parallèle entre ce par quoi nous sommes passés ici en Afrique du Sud avec l'épidémie du coronavirus et ce que les disciples et ce par quoi les disciples sont passés ce week-end quand Jésus était crucifié. Beaucoup de gens prient ensemble et nous avons prié avec eux que cette épidémie passe. Et c'est correct, c'est juste. Ils se battent avec Dieu et supplient pour la grâce et la miséricorde. Et c'est juste. De la même façon, nous tous, nous devrions être à genoux, priant pour notre pays, comme nous l'avons fait. Priez et suppliez, Seigneur, garde-nous sous ton aile. Garde-nous comme la prunelle de ton œil. Mais quelque chose de plus, il y a quelque chose de plus à cette épidémie que juste faire cela. Alors que nous sommes passés par cette expérience, alors que nous sommes passés par ce week-end, il y avait dans mon cœur un désir profond de rencontrer Dieu. Un désir profond, Seigneur, ne passe pas à côté de moi. Parce que vous savez, si nos cœurs ne sont pas en règle devant Dieu, ne sont pas droits devant Dieu. Dieu peut facilement juste nous passer à côté. Silencieusement, il va passer à côté. Même si nous avons été séparés, tout seuls, il y a la possibilité que nous soyons passés par ce temps difficile séparés, et pourtant, Dieu ne s'est pas révélé à moi d'une façon toute particulière, comme il s'est révélé à ses apôtres, à ces deux hommes. Des milliers de Juifs célébraient la Pâque au moment de sa crucifixion. Beaucoup ont vu la crucifixion, certains de près, d'autres de loin. Mais ce n'est pas tout le monde qui s'est révélé, qui l'a révélé, c'est le cœur de Dieu, qui s'est révélé d'une façon toute particulière. Mes amis, c'est ça que Dieu fait dans le réveil. Il regarde à mon cœur, à ton cœur, Il regarde si nous vivons devant les hommes, si nous essayons de plaire aux hommes. Et s'il trouve notre cœur, qu'il n'est pas pur, humble, brisé, propre. Peut-être ce ne sera pas une grande chose. Peut-être il ne te maudira pas et il ne te n'humiliera pas. Non, ça c'est le pire. Au moins, s'il te punissait ou qu'il te réprimandait, tu saurais qu'il était hors de sa volonté. Mais non, il a cette façon de juste passer à côté et va se révéler d'une façon toute particulière à ses enfants qui marchent dans l'humilité et dans l'honnêteté. On trouve trois groupes de personnes quand il y a des périodes de séparation. Et rappelez-vous, pendant la crucifixion, les disciples étaient aussi, d'une certaine façon, éparpillés. Oui, les 11, et quelques personnes, deux autres personnes étaient ensemble avec eux. Ils l'attendaient. Mais il avait beaucoup de disciples à cette époque. Ils avaient tous peur d'être eux-mêmes persécutés ou crucifiés. Ils étaient tous confus, désillusionnés de ce qui s'était passé avec leur maître. Ils ne pouvaient pas se rassembler, ils ne pouvaient pas chanter ensemble, ils ne pouvaient pas s'encourager. Beaucoup étaient éparpillés dans leur maison, juste sachant qu'il y avait quelque chose qui s'était passé et que le Seigneur avait été tué. Beaucoup d'entre eux étaient isolés. Comme nous avons été isolés ces derniers temps avec cette épidémie du COVID-19. Il y a trois groupes de personnes différents, donc, pendant une période d'isolation. Le premier groupe, donc c'est un groupe de personnes pour qui la tentation est beaucoup plus forte pendant des périodes comme cela. Ils sont assis à la maison, ils s'ennuient, et quand on s'ennuie, la tentation de pécher est encore pire. De regarder quelque chose que tu ne devrais pas sur Internet, de s'occuper avec des choses de péché. Quand tu es isolé, tu es tout seul, tu es tout seul avec tes pensées. Tu peux rester assis et macérer toutes ces choses dans ton âme, ces choses que ces gens ont dit et qu'on fait. Et ça fait produire encore plus d'œufs du diable dans ton cœur. Tu les couves comme des œufs et ça les reproduit. Tu peux être assis avec des pensées de désir, à cause d'une certaine vidéo que tu as vue ou de certaines personnes que tu as rencontrées. Des pensées de colère, des pensées de haine. Quand tu es tout seul et que tu regardes ces choses, le diable peut mettre les choses en place de façon impressionnante pour que tu puisses penser à cette personne a fait cela et c'est à cause de ça et c'est pour ça. C'est parce que cette personne m'en veut, elle a de la haine pour moi. Mais c'est toutes les pensées de ton cœur mauvais qui sont en train de cuire dans ton cœur. Tu es en train de les couver dans ce temps d'isolation. Tes propres pensées, mon ami, peuvent être ton pire et ton plus cruel meneur d'esclaves. Maître. Quand tu es seul, tes pensées peuvent t'accuser que tu as fait ça, ceci, cela, que tu es coupable de tout. Et ces choses peuvent couver en toi. Rappelez-vous, le diable est l'accusateur. C'est son nom, l'accusateur. Il va utiliser ce temps pour vous accuser. Et à moins que tu puisses dire au diable, « Satan, j'ai amené ces péchés à la lumière, je les ai amenés à Dieu. J'ai été lavé de ces péchés. » Cette culpabilité a été lavée de mon âme. Je ne la porte plus. Si tu ne peux pas faire ça, tu vas être dans un grand problème. Il y a un deuxième groupe de qui je ne vais pas beaucoup parler. Un groupe de juifs qui continuent avec leur rite de Pâques. Ils sont allés à l'église, à la synagogue à l'époque. Ils ont continué, ils ont fait tout ce qu'ils étaient. Ils ont continué tout ce dont à quoi ils étaient habitués. C'était une grande partie de la population juive qui continuait les rites, les traditions, les lois de Moïse, mais rien de aucune visite personnelle de la part de Dieu vivant. Mes amis, les moments d'isolation ont souvent été des temps où le Seigneur se révèle d'une façon toute spéciale à ses enfants. Et c'est ce qui s'est passé à ces deux hommes sur leur chemin d'Emmaüs. Et ça s'est passé à plusieurs de ses disciples. Ils ont eu une visite toute particulière du Seigneur. Et ça, c'était le cri de mon cœur ces jours. « Seigneur, est-ce que tu ne veux pas me visiter d'une façon toute particulière pendant ces jours? Si tu te réveilles, pendant que tu te révèles à d'autres personnes, Seigneur, s'il te plaît, ne passe pas à côté de moi. Est-ce que vous savez ce que c'est d'être passé outre? Moi, je sais ce que c'est d'être passé à côté. Tu penses que tu sers le Seigneur? Et tout d'un coup, tu réalises, Dieu travaille dans la vie d'un tel, Dieu travaille dans la vie de cette personne, dans ce groupe, et il est passé à côté de moi. Il m'a laissé de côté, il m'a rien dit. Et ces deux hommes sur le chemin d'Emmaüs étaient des gens à qui Dieu a décidé, je vais leur révéler le secret de ce qui s'est passé, d'une façon toute particulière. Parce qu'il n'est pas seulement apparu à eux. Juste pensez à cela. Quel privilège! Le Fils de Dieu, la personne par qui tout est arrivé, la personne elle-même qui a été crucifiée, qui ressuscitée, cette personne-là est apparue à ces hommes quand ils étaient séparés, isolés, seuls, en route vers Emmaüs. Mais ce n'était pas juste une apparition et quelque chose pour affermir leur foi. C'était cette explication des Écritures, leur donner une explication profonde pour que tout d'un coup ils réalisent qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi ça s'était passé. Pourquoi Dieu a-t-il pu faire cela à eux? Pourquoi Dieu a pu faire cela aux apôtres qui étaient rassemblés? Il est apparu à un grand groupe plus tard. Ils étaient en train de marcher, ils étaient seuls, en route vers Emmaüs. Pourquoi Dieu les a pris, ces deux, et les a mis dans son plan et leur a fait part du plan qu'il avait. Mes amis, mon ami, je ne demande pas si tu as gardé la célébration de la Pâque. Je te demande, est-ce qu'il t'a inclus dans son plan? Est-ce qu'il a révélé ses secrets intimes qu'il ne révèle pas à tout le monde? Ou est-ce qu'il est juste? Il t'est juste passé à côté, il t'a laissé continuer tes célébrations, tes cultes de Pâques pendant qu'il visite d'autres personnes. Pourquoi il a pu apparaître à ces hommes? Parce qu'il n'y avait pas d'obstruction entre eux et Dieu. Il ne marchait pas avec des rancunes par rapport à ce qu'un tel avait fait, ce qu'un tel avait dit. Ils n'ont pas laissé la critique rentrer dans leur cœur. Regardez ce qu'a fait Pierre. Comment Pierre, il a pu faire une chose pareille? J'aurais jamais fait une chose pareille. Comment Pierre, il va pouvoir continuer à vivre avec une telle honte? Regarde Judas, ce qu'il a fait. Tu sais pourquoi Judas s'est suicidé? Peut-être qu'il n'y avait personne qui avait du temps pour Judas parmi les apôtres. Peut-être qu'il n'a pas reçu de l'amour de leur part. Pourquoi il ne s'est pas senti libre d'aller parler à Pierre ou à Jean de ses tentations? Peut-être c'est parce qu'il ne s'est pas senti traité d'une façon qu'il a pu sentir libre d'aller leur parler. Peut-être qu'ils l'ont négligé, qu'ils l'ont regardé de haut et il l'a ressenti. Il n'y a pas d'amour parmi eux. Où est l'amour quand Judas en a eu besoin? Où était le bon berger, celui qui aurait dû être comme un bon berger et ramener Judas? Mes amis, faites attention à la critique. La critique qui vient du fond de l'enfer et qui va te voler. Et Christ va te passer à côté. Il ne va pas t'apparaître. Et tu sais, ces trois qui sont endormis, quand Jésus leur a demandé de monter la garde. Ah, je comprends pas. Désolée, je comprends pas. Comment ils ont pu s'endormir alors que le Seigneur avait besoin d'eux? Il avait besoin d'eux, il avait besoin qu'ils prient avec eux. Regarde Pierre. Cet homme, il ne pouvait même pas contrôler sa colère. Cet homme mal poli. Ils auraient dû lui dire, Pierre, mais enfin, contrôle ta colère, t'as un problème. Il va aller couper l'oreille du serviteur du grand prêtre. Non, il a tout gâché. Maintenant, c'est évident que tout s'est passé comment ça s'est passé. Parce que Jésus était avec un groupe de personnes complètement incontrôlables. Non, il n'y avait rien de cela dans leur cœur. Rien comme cela entre les disciples. Écoutez ceci. Ils étaient confus, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. mais ils sont restés dans le même esprit. Est-ce qu'il y a toujours un esprit, cher frère, chère sœur? Est-ce qu'il y a toujours un esprit entre toi et ton frère? Peut-être que dans des jours normaux, vous êtes assis l'un à côté de l'autre, sur le même banc à l'église, et pourtant, entre toi et ton frère, il y a un mur de ciment. Et tu penses que le Seigneur va se visiter et te révéler ses mystères? Non, il va rester silencieux et passer à côté. Et il va aller bénir quelqu'un d'autre et se révéler à d'autres personnes. C'était une heure sombre, l'heure la plus sombre de leur vie. Et pourtant, ils étaient tous ensemble. Ils ont porté tous le même fardeau, le même feu, la même passion. Ils étaient un l'un avec l'autre. Ils sont restés proches l'un de l'autre. D'une façon spirituelle, pas d'une façon physique, parce qu'ils étaient éparpillés. Ils ont ouvert leur cœur. Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait de la peine dans ma vie? Est-ce que quelque chose que je devrais m'occuper? Fais attention quand le Seigneur s'occupe de toi. Quand le Seigneur s'est révélé à eux, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont immédiatement allés le partager à leurs amis. Ils ne sont pas restés avec l'orgueil de l'enfer dans leur cœur. Dieu m'a parlé, c'est à moi, je ne partagerai avec personne. Et le Seigneur s'est révélé à eux parce qu'ils étaient d'un esprit. Mes amis, est-ce que je peux vous dire quelque chose? C'est quelque chose de triste de voir des gens qui étaient d'un même esprit et qui ne sont plus d'un même esprit. Quelque part, le diable a réussi à rentrer au milieu d'eux. Quand tu vois telle ou telle personne, tu vois qu'il marche avec l'amertume dans son cœur. Tu vois l'amertume dans son attitude. Mon ami, tu te sépares des autres parce que tu penses que tu es meilleur. Te garder séparé, ça va causer un suicide spirituel. Souvent, j'ai pensé, pourquoi compte les divisions dans l'Église comme il compte à la même, avec la même sévérité que le meurtre et le des péchés comme cela. C'est parce que ces divisions dans l'Église de Dieu, c'est une malédiction sur le corps de Christ. Tu dis que je suis de Barnabas, je suis de Paul. Et tu sais qui c'est qui souffre le plus de cela? L'Église de Dieu. La Bible dit, ce que tu as fait à l'un de ces plus petits, au moindre, c'est à moi que tu l'as fait. Le plus petit à tes yeux. Peut-être que le plus petit à tes yeux, c'est l'Église. Et à cause de cette histoire entre Paul et Barnabas, tu n'en as rien à faire de l'Église de Dieu. Tu ne ressens rien pour l'Église parce que tu as une amertume contre quelqu'un. C'est la plus grande difficulté pendant un temps d'isolation. Est-ce que le Seigneur va me visiter? Dis-moi, est-ce que le Seigneur te visite? Est-ce que tu sais combien c'est béni? Combien c'est un plaisir de pouvoir passer du temps ensemble ici à la mission? Même si on est juste deux ou trois ensemble. C'est la douceur du ciel qui est au milieu de nous. Ça nous soigne, c'est comme de l'huile sur nos plaies. C'est sobre. Est-ce que je peux te dire cela, toi? Est-ce que je peux vous dire cela, vous, au blanc? Une sobriété que je reçois de nos frères et sœurs noirs, que je me demande comment aucune église peut exister sans des frères et sœurs noirs. Quand tu réalises... Avec ma mentalité européenne, je rate complètement ce qui est important. Là, voilà mon frère noir qui comprend tout à fait et qui peut me diriger dans la bonne direction. Est-ce que tu veux vraiment expérimenter la joie de la résurrection de Christ? Alors fais bien, sois sûr que ton cœur soit nettoyé et que Dieu peut te visiter et ouvrir tes yeux, faire tomber les écailles de tes yeux pour que tu réalises ce qu'il est en train de faire et où est-ce qu'il veut travailler. Est-ce que tu pries juste que Dieu t'aide à passer par cette crise? Ou est-ce que quelque chose profond au fond de ton cœur, Seigneur, utilise-moi d'une façon toute particulière? je vais me tourner vers un autre exemple. Je passerai moins de temps dessus. Un autre exemple dans la Bible où les gens et tout le monde étaient isolés. C'était une période où il y avait eu 3 ans de sécheresse en Israël. Et le prophète de Dieu, l'homme de Dieu, qui était si près du cœur de Dieu, et Dieu l'a traité, si je le dis avec beaucoup de respect, mais Dieu l'a traité comme un chien et il a dû être à côté d'une rivière et attendre qu'un corbeau vienne le nourrir. Élie est un des deux seules personnes qui a été enlevée, qui n'est pas mort, qui a été juste enlevée vers le ciel. Et ce prophète de Dieu, le prophète de feu comme il l'appelait, Dieu l'a traité et l'a laissé à côté d'un ruisseau. Il a dû boire de l'eau boueuse peut-être et attendre qu'un corbeau le nourrisse. Fais attention, tu vas rater. Tu regardes de haut un homme de Dieu et tu penses qu'il n'a rien de spécial parce qu'il n'a pas de pompe et de gloire, que la pompe et la gloire que tu attends. Finalement, Dieu a décidé. Je vais donner à quelqu'un le privilège de s'occuper de mon prophète. Tout le monde le haït, le hait. Le roi Akab le chasse comme un animal pour essayer de le tuer. Jézabel veut sa vie. Et Dieu a dit, je vais l'emmener vers une personne particulière pour s'occuper de lui. Qu'il n'ait pas besoin d'être nourri par les corbeaux. Luc 4, verset 24. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Ça, c'est une loi, mes amis, que Jésus a établie. Un prophète n'est pas bien accepté dans sa famille et dans son village. Verset 25, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Dieu est passé outre de toutes les veuves d'Israël. Rappelez-vous, c'était aussi une période d'isolation, de difficulté. Dieu n'était pas à l'époque connu comme Dieu des païens. C'est seulement arrivé plus tard avec Paul et Pierre. Il était juste le Dieu d'Israël à cette époque. Et si quelqu'un voulait être accepté de Dieu, il devait faire partie d'Israël. Toutes les veuves d'Israël qui passaient par tous les rituels, aller à la synagogue, offrir les offrandes et les sacrifices. Mais Dieu est passé silencieusement. Il les a sautés et il est allé vers cette veuve à Sarepta. Est-ce que vous savez que les Sidoniens étaient les pires des pires par rapport à l'adoration des idoles? Jézabel était une Sidonienne, la fille du roi de Sidon. C'était des gens qui sacrifiaient leurs enfants au dieu Baal. Et Dieu passe à côté, il passe toutes les veuves d'Israël, parce qu'à ses yeux, elles n'étaient pas acceptables pour recevoir son prophète. Verset 26. Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Élie est venu vers elle. Cette femme qui faisait partie d'une nation païenne. Qui ne savait peut-être rien du Dieu d'Israël. Qui vivait dans ce pays sans Dieu. Il est venu vers elle et il a testé cette femme de ce peuple païen. Il lui a demandé à boire. Mes amis, avez-vous expérimenté cela? Quand Dieu envoie son prophète vers toi, son fils vers toi, et il va te dire, un tel, donne-moi un peu d'eau. Elle s'est retournée pour aller chercher de l'eau. Et elle a dit aussi, s'il te plaît, fais-moi un peu de pain. Elle réagit, on se dit, mais je ne suis pas un chrétien. Je n'ai jamais essayé d'être un chrétien. Je n'aime même pas les enfants de Dieu. Je vis ma propre vie. Et en plus, je ne peux pas me permettre de donner à cet homme du pain. Et vous savez quel était le secret de cette femme? Elle était brisée. Bénie est la personne qui est brisée à cause de son péché. Et elle a dit, je n'ai qu'un tout petit peu de pain, je vais faire un pain pour mon enfant et moi, et après on va mourir. Mes amis, si Jésus vient vers toi comme ça, ne le refuse pas. Même si tu es dans le pire péché que tu peux être, tu ne peux pas être plus profondément dans le péché, dans la bourbe. Et ne dis pas, mais Seigneur, je ne peux pas me permettre de t'avoir dans ma vie maintenant. Après, il faudra que j'aille mettre en ordre ceci, ceci, cela, et repayer ceci, cela, et aller demander pardon pour cela. Je ne peux pas faire ça maintenant. Ne fais pas cela. Si tu es assis à la réunion et tu entends ce message, et Dieu te parle, et Dieu te dit, donne-moi ta vie. Donne-moi un peu d'eau. Et fais-moi aussi un peu de pain. Ne dis pas, Seigneur, mais ça fait trop longtemps que j'étais séparée. Tu sais ce que c'est maintenant. Je ne peux pas me permettre de payer toutes ces choses. Elle l'a accepté. Et il a béni l'huile. Et à partir de ce jour, son huile ne s'est jamais tarie. C'était une visite spéciale, particulière, comme les deux hommes vers Emmaüs. Il ne les a pas juste visités pour se révéler à eux. Il les a visités pour ouvrir les Écritures à leurs yeux. Il n'a pas juste visité cette femme pour lui donner l'honneur de rendre service à un homme de Dieu. Il y avait une bénédiction bien plus grande derrière cette visite. Ne tourne pas ton dos au Saint-Esprit lorsqu'il te visite, mon cher ami. Tu ne peux pas imaginer ce qu'il a en réserve pour toi et ce qu'il veut faire pour toi. Regarde comme il est passé à côté de toutes les femmes veuves en Israël. Il n'a pas fait d'annonce. C'est ce que Dieu a fait à ma Pomolieu il y a des années, en 1966. Il a décidé de visiter un homme blanc avec un groupe de Zoulous. Il y avait beaucoup de personnes allant à l'église dans ces années. Moi aussi, j'allais à l'église tous les dimanches à ce temps-là. J'avais 10 ans, on allait à l'église tous les dimanches. Mais Dieu nous est passé à côté. Je veux dire en tant que réveil. Il nous est passé à côté en tant que personne, le Seigneur a visité certaines personnes. Il y avait beaucoup de projets dans les églises. Beaucoup de personnes qui faisaient des activités, qui évangélisaient. Et Dieu, silencieusement, a commencé une activité, un travail au milieu d'un homme blanc et un groupe de Zoulous, Amapumulo. Mes amis, Dieu a gardé son prophète dans l'obscurité pendant longtemps. Fais attention que tu ne rates pas le fait que Dieu garde son prophète dans l'obscurité et penser qu'il n'est plus bon à rien. S'il te plaît, ne fais pas cette erreur de dire « Ah ben, c'est un moment d'être séparé, je ne peux pas aller parler, partager mes péchés et mon à personne. Je vais garder ces choses pour moi et aller plus profondément encore dans mon péché. » J'en arrive à la fin et je veux conclure avec un incident. Quand j'ai commencé à visiter cet endroit ici, dans les années 70, j'étais un jeune étudiant et un jour, j'étais ici en route vers la mission. J'avais un petit lecteur cassette à côté de moi. J'écoutais les messages en clair l'eau. C'était à l'époque où j'avais besoin de prier que le Seigneur garde ma petite voiture pour pas qu'elle tombe en panne en chemin. Parce que je conduisais une vieille voiture qui souvent tombait en panne au pire endroit, au pire moment. Et un des cultes, la chorale de la mission a chanté un chant. Et ce chant est resté dans mon cœur. C'était un vieux lecteur de cassette. Et je appuyais sur le bouton de marche arrière en arrière et je remettais au début du chant, j'ai écouté le chant à nouveau et à nouveau et à nouveau chaque fois et j'avais les chants à peu près par cœur dans ma tête. Et la chorale à l'époque chantait ce chant à la période de Pâques. Et cette fois, je n'ai pas entendu ce chant que la chorale a chanté. Et je voudrais demander qu'ils nous mettent ce chant. Ça m'a béni. Et ça ne m'a pas surpris. Une fois dans le culte, qu'Oncle Erlo a dit une fois qu'à son enterrement, il voudrait que ce chant soit chanté. Nous voulons dire, Oncle Erlo, nous te remercions que nous n'en sommes pas là encore et nous prions qu'il y aura encore beaucoup d'années avant que cela se passe. Nous remercions Dieu qu'il t'ait gardé et que tu puisses nous envoyer ce message ce matin. Voilà le chant. Ce que dit le chant. Ils ont pleuré, mon maître et mon seigneur. Avec personne pour le défendre. Il est mon maître et mon sauveur. Personne pour le défendre. Dans les halls de Pilate, il s'est tenu sans amis. Je serai un ami de Jésus. Ma vie pour lui, je veux dépenser. Est-ce que tu comprends de dépenser ta vie? Quand tu dépenses de l'argent, tu la donnes, tu ne peux pas la récupérer. Si tu dépenses ta vie pour Christ, tu la donnes, tu ne la récupères pas, tu ne la reprends pas. C'est te déverser pour lui. Combien de gens ont écouté ce chant, l'ont chanté et l'ont écouté? Combien ont été fidèles à cela? Ma vie, pour lui, je dépenserai. Je serai un ami pour Jésus. Jusqu'à ce que mes années se finissent. Je ferai ce qu'il me demande. J'irai où il m'envoie. Écoutez cela. Écoutez cela. Je pleurerai chaque moment pour le convaincre que je suis son ami. Pour tous ceux qui ont besoin d'un sauveur. Mon ami. Je recommande. Il est devenu mon ami. Pourquoi? Parce que je suis relaxe. J'appelle Jésus mon ami d'une façon légère. Non, parce qu'il est mon ami. Parce qu'il a amené le salut. C'est pour cela que je suis son ami. Il me sauve de mes péchés. C'est pour cela que je suis son ami. Et je le recommande à chacun qui a besoin d'un sauveur. Mes amis, c'est le désir de mon cœur. Seigneur, ne me passe pas à côté, comme tu es passé à côté de toutes ces veuves en Israël à cette époque. Pendant ce temps de l'épidémie, s'il te plaît, révèle-toi à moi d'une façon toute spéciale. Je me rappelle comment j'étudiais et j'ai travaillé à Kronstadt. Et j'ai entendu comment le Seigneur travaillait par son réveil ici. Et je me disais, mais Seigneur, pourquoi tu me passes à côté? Je veux être ton ami. Je veux dépenser ma vie pour toi et je ne veux pas la retrouver, la récupérer, la reprendre. Je veux être ton ami jusqu'à ce que mes années finissent. J'essaierai à chaque moment de te prouver que je suis ton ami. Jésus était en procès ces jours. Nous avons entendu comment il s'est tenu sans personne à côté de lui pour le défendre. Est-ce que tu as entendu cet appel à lui? Est-ce que tu as entendu cet appel de lui amener tes péchés et ta vie? Est-ce que tu as entendu cet appel d'être lavé par lui? Est-ce que tu as entendu cet appel de devenir son ami? Alors obéis. Et ne retourne jamais sur ta promesse. Nous voulons prier ensemble. Seigneur, nous te remercions pour cette journée glorieuse. Merci de la façon dont tu as visité ces deux hommes sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient séparés des autres. Et pourtant, tu les as trouvés, toi, là où ils étaient en train de marcher. Et tu t'es révélé à eux. Et ils ont pu partager à cette joie de la Pâque. Que tu es ressuscité. Que tu as conquis l'enfer. Tu es le roi des rois. Et que tu veux être leur ami. Que aucun d'entre nous ne rate cela. Nous te demandons cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.